Mémoire vive,
présentée par Ève Cheftel
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Après la déportation des Juifs de Varsovie, après leur extermination à Treblinka, un camp à 80 km de la capitale polonaise, après l'écrasement de la révolte du ghetto en avril 1943, il n'y a plus de Juifs à Varsovie. Pourtant, au cœur du quartier allemand, place des Trois Croix, 18 orphelins âgés de 6 à 14 ans vont réussir à survivre en vendant des cigarettes, en se cachant, toujours sur le qui-vive, mobiles, agiles, poussés par un instinct de survie qu'il conviendrait mieux d'appeler une rage de vivre, un appétit féroce pour la vie. 5 d'entre eux sont toujours vivants. Vous les avez rencontrés, Shoshana Bukobza.
Bonjour.
Bonjour. Ils sont les héros de votre nouveau film qui s'intitule « Les petits héros du ghetto de Varsovie », produit par les films Paris-Barcelone avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. On va les citer. Il s'agit de Ben-Sion Hadar, dit Bolus, 6 ans, à l'époque des faits, bien sûr, Joseph Shapira, 11 ans, Jacques Klajman, 12 ans, Peretz Hochman, 15 ans, et son frère Zenek, 13 ans, qui n'apparaît pas dans le film, et Ignace Milchberg, 14 ans. Shoshana Bukobza, vous êtes née en 1959 à Sfax, en Tunisie, et à l'âge de 4 ans, vous avez émigré en France, puis en Israël, à 17 ans. Vous êtes écrivain et vous êtes aussi l'auteur de plusieurs scénarios et avez co-réalisé un documentaire en 2005, Un billet aller-retour, qui interroge le lien des Juifs de France avec Israël. Comment avez-vous eu l'idée de faire un film sur ces enfants qui, j'imagine, vous allez me le confirmer ou pas, ne figurent pas en bonne place dans les livres d'histoire ?
Alors, je voulais vous dire d'abord que le ghetto de Varsovie est au cœur de mes interrogations, de mes recherches, comme la Shoah d'ailleurs, puisque je n'arrive pas restaurée. Je n'arrive pas à comprendre ce qui est arrivé à 460 000 juifs de Varsovie, dont avec une population de 100 000 enfants de moins de 14 ans. Donc ça fait longtemps que mes romans, mes textes tournent autour soit de Varsovie, soit de la Shoah. Et lorsque j'ai rencontré Joël Perelberg à une vente de livres et qu'elle venait de traduire un livre qui avait été écrit en pleine tourmente en 1944. Joseph Ziemann, survivant du ghetto de Varsovie lui aussi, 19 ans, planqué dans la partie aryenne, tombe absolument par hasard sur deux enfants qui lui paraissent être juifs. Il n'arrive pas à le croire, deux enfants aussi petits, et ses enfants l'abordent en lui demandant s'ils peuvent l'aider, lui. Donc il craint d'abord d'être tombé sur des maîtres chanteurs, et puis non, en fait il s'aperçoit qu'il y a une bande d'enfants juifs, place des Trois Croix, qui vendent des cigarettes et des journaux. Et donc, il va écrire leur biographie. Et ce livre va paraître d'abord en polonais, ensuite en yiddish, et puis en hébreu, avec le soutien de Yad Vashem. Donc, on est en 1950, quand le texte paraît en polonais. Un peu plus tard, hein, en hébreu, en 1960 et quelques. Et puis, ce texte va être traduit en anglais. Et c'est simplement l'année dernière qu'il est traduit en français dans une petite maison d'édition. Et donc, quand je tombe sur ce texte, immédiatement, je fais des pieds de main pour essayer d'en faire un film. Et la première personne que je contacte est d'ailleurs Rachel Rimer, à la Fondation de la mémoire pour la Shoah. Voilà, on est parti la voir avec ma productrice, Elisabeth Mergui, qui a cru à ce projet et qui l'a défendu. Et puis ensuite, France 3 l'a pris. Voilà. Donc, le film a démarré de cette façon. Il y avait 5 survivants à l'époque, dont le chef de la bande, ce qui était très important.
Ignace Milchberg, c'est ça ?
Ignace Milchberg. Deux d'entre eux vivaient au Canada et les trois autres en Israël. Et puis, au fur et à mesure que le film progressait, il y a eu des décès. Et très récemment, Ignace Milchberg est décédé au mois de janvier 2014. Ignace Milchberg m'a laissé ignorer sa maladie, ce qui est absolument extraordinaire. C'est-à-dire que lorsqu'il m'a reçu, il savait déjà qu'il avait des problèmes cardiaques extrêmement importants. Mais Il n'en a rien laissé paraître. Mmh. Il a été très gai pendant tout l'interview. Il a chanté. Il a ri. Il a essayé de nous raconter cette affaire-là de 18 enfants livrés à eux-mêmes dans la ville et d'une ville hostile. Dormant dans les ruines, les cimetières, les cages d'escalier par moins 30 en hiver, se soutenant. C'était une vraie leçon de vie. Et puis soutenant surtout le petit Bolus, puisque Bolus, quand la guerre éclate, il a 3 ans. Et donc en fait, il ne connaît que la guerre. Un an plus tard, c'est le ghetto. Et très vite, comme il est d'une famille nombreuse et très pieuse, enfin tous hein, sont de famille religieuse, évidemment, puisque Varsovie, à l'époque, était une ville d'une richesse religieuse extraordinaire, eh bien, Bolus va être entraîné par sa petite sœur en dehors du ghetto par les trous des murs. Et il va chanter dans la rue. Parce que les gens en fait lançaient du pain par les fenêtres quand la chanson ou le petit chanteur leur plaisait, et c'est avec ils revenaient dans le ghetto en se faufilant par le trou du mur pour nourrir sa famille. Donc en fait, de toute façon, ils ont tous, et c'est ça qui en fait fait leur force et qui est une force inouïe, ils ont tous commencé à se battre dès que la guerre a éclaté.
Alors ça, on le voit bien dans votre film, il y a trois étapes, enfin trois grands moments. D'abord dans le ghetto, comment ils se débrouillent justement pour se faufiler dans par les trous aménagés dans le mur pour rapporter de la nourriture, enfin en fait subvenir aux besoins de leurs parents. Ensuite, il y a dans Varsovie, vidée de ses juifs après la liquidation du ghetto. Et la dernière partie, c'est en quelque sorte aux côtés de la résistance polonaise. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur ces trois étapes? D'abord, dans le ghetto, en fait, quel rôle joue-t-il à ce moment-là, ces enfants?
On le sait depuis longtemps par les récits des uns et des autres que les enfants se faufilaient soit par un trou dans le mur, soit sauter par-dessus le mur. Moi, j'ai retrouvé donc des archives absolument extraordinaires, des photos qui montrent, par exemple, parce que le mur pouvait séparer, c'était comme la ligne de démarcation en France. Vous savez, quand on étudie la ligne de démarcation en France, on voit bien qu'elle partageait des villages en deux. Eh bien, le mur, là, à un certain endroit, partageait une maison en deux. Et cette maison avait été habitée par des Juifs et des Polonais, et ils étaient restés amis. Eh bien, leurs fils ont fait du troc, ont passé le mur ensemble. C'est-à-dire que les Juifs passaient par la maison des Polonais, et ils ont pris des photos. Et ces photos sont conservées au GIR, c'est le musée juif de Varsovie. Donc, j'ai pu les retrouver, par exemple. Donc, on voit bien comment les gens qui essayaient de sortir du ghetto se débrouillaient. Soit ils passaient par-dessus les murs, donc franchissaient, escaladaient le mur, soit ils passaient sous le mur en déplaçant quelques briques. Et on comprend dans le film comment ils ont arrivé à faire cela, parce que les nazis, en montant le mur, avaient aménagé des caniveaux, enfin des trous dans le mur pour que la neige, qui est très haute en hiver, ne puisse pas pourrir la base du mur. Donc il y avait déjà un trou et les enfants n'avaient plus qu'à déplacer une ou deux briques pour pouvoir passer en dessous. Et le troisième passage qui était possible, c'est les fils de fer barbelés. Alors ça, c'est la première chose qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, les juifs qui ont été enfermés dans un vingtième de Varsovie, alors qu'ils représentaient un tiers de la population. Donc, vous imaginez 460 000 personnes dans un vingtième de territoire ne pouvant pas subvenir à leurs besoins, puisque certains d'entre eux avaient trouvé du travail auprès des entreprises allemandes, mais les autres non. Donc, de toute façon, c'était la dégringolade et la famine. Eh bien, la résistance de ces enfants est absolument extraordinaire, parce que les enfants sortaient, les enfants se battaient pour pouvoir trouver du travail. Ils sont devenus, dans le ghetto même, ils faisaient du troc, ils rendaient service aux adultes, ils vendaient les quelques petits légumes qu'ils pouvaient trouver. Ils n'ont jamais renoncé. La résistance dans le ghetto, elle n'a pas commencé simplement le 19 avril 1943. Elle était multiforme, soit parce que les enfants eh bien, ont renversé la hiérarchie de la famille en subvenant aux besoins de leurs parents, soit parce qu'ils ont fait partie de l'équipe Regelblum, c'est-à-dire qu'ils ont écrit leur histoire, ils l'ont enterrée pour qu'on puisse la retrouver, et soit encore, ils se sont battus dans le ghetto, oui.
La deuxième phase, c'est après la destruction du ghetto, où là, ils se retrouvent, pour ceux qui n'étaient pas déjà dehors, parce que certains avaient réussi déjà à échapper aux déportations et à se cacher dehors, là, ils se retrouvent en territoire hostile. Et comment ils vivent alors, comment où ils se cachent
Alors, certains d'entre eux, il faut que je vous dise, c'est ça qui est extraordinaire, parce que Jacques Lajoinne, par exemple, est resté jusqu'au dernier jour dans le ghetto. Et il était dans le bunker de la rue Mila quand les nazis l'ont investi au troisième ou quatrième jour de la révolte. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs bunkers. Hein. On ne parle pas du bunker d'Anielewicz, là. On parle d'un bunker qui était à côté de celui d'Anielewicz, où il y avait 100 juifs qui se sont cachés. Et donc, il nous a raconté comment... le bunker est
investi. Il le raconte avec beaucoup d'émotion.
Ah, c'est terrible.
C'est un passage
c'est terrible.
Terrible.
Parce qu'en plus, Jacques Lajoinne, au moment où on va le voir, donc accepte avec beaucoup de difficulté de nous recevoir. Il a très peur de parler de ses souvenirs. Et puis, quelques jours avant de nous recevoir, il nous fait téléphoner par son fils en disant « Je refuse, je ne peux pas y aller, je ne peux pas le faire. » Donc, son fils arrive à le persuader au bout de plusieurs heures de discussion, de témoigner pour ce film. Et il nous dit, ben, je vous donne une demi-heure. Donc même pour une demi-heure, moi, je partais, quoi. Et en fait, dès qu'il a commencé à parler, Jacques Lajoinne tombe dans ses souvenirs et se met à mimer les scènes. Au point que, c'était extrêmement dense. C'était un homme qui n'était plus avec nous. Il était complètement hanté, d'ailleurs on le voit dans le film, il bouge avec son corps, il bouge avec ses yeux, son regard, il se met... C'était incroyable, incroyable. Et une fois qu'on a eu fini l'interview, il nous a raconté qu'il s'était remis à crier la nuit. Parce que l'histoire de Lajoinne, elle est, comme toutes les histoires de ses enfants, elle est terrifiante. Ils se sont battus jour après jour. Jour après jour pour tenir, et ça a duré 2 ans, quoi. Ce n'est pas l'affaire de quelques semaines ni de quelques mois, c'est 2 ans dehors.
Il a finalement réussi, alors il raconte comment il sort de ce bunker et il fonce en fait. Il passe quasiment entre les jambes des soldats allemands qui gardent l'entrée et... Il se retrouve ensuite, il se couche parmi les cadavres, il se retrouve, la nuit tombe, et il revient sur les lieux, le bunker a été incendié, il se met à pleurer, il sanglote, je suis si seul, et puis là, miracle, il y a un combattant de la résistance juive qui lui dit « non, viens, je t'emmène », et il passe par les égouts et il arrive à s'enfuir. Alors là, il y a une petite anecdote qui raconte, les égoutiers faisaient payer, c'est ça le passage, et lui n'a pas d'argent, et l'égoutier n'accepte pas de le faire passer, mais il lui dit « mais mon père va te payer, tiens, prends mon sac », et hop, il file, il grimpe les barreaux, et voilà.
Ça, c'est des enfants qui avaient des ressources incroyable. Extraordinaires. Hein. C'est des enfants qui savaient courir. C'est des enfants qui flairaient le danger, qui avaient un instinct absolument extraordinaire. Ce qu'il faut savoir, c'est par exemple que Bolus, qui a 9 ans quand il arrive en Israël, eh bien fera partie des soldats qui vont rentrer à Jérusalem en 67. Voilà, les trois, de toute façon, dès qu'ils arrivent, prendront les armes. Hein. Tous ceux qui arrivent en Israël, Polsky par exemple aussi, qu'on ne voit pas parce qu'il est mort, se battra pour à chaque guerre d'Israël. Ils n'ont pas arrêté. Et puis, ils donneront leur fils. Le fils de Polsky est mort en 73. C'est une histoire de vie, de courage, une immense histoire de résistance, de refus de renoncer, de refus de mourir, qui nous est racontée là.
Vous parlez de la résistance, c'est la dernière partie de votre film. C'est très important, c'est cette rencontre avec justement Joseph Ziemian. Est-ce que vous pouvez en parler ?
Oui, alors en fait, Ziemian, quand il les voit, il va jusqu'à la place des Trois Croix, il voit les enfants. Tous ces enfants-là avaient trouvé un moyen pour se cacher parmi les enfants polonais. D'abord, il faut vous dire une chose, et ça, ils insistent. Ils insistent tout sur cette affaire-là. Ils disent, je ne ressemblais pas à un juif. J'avais les yeux bleus et j'étais blond et j'avais un petit nez. Mmh. Ils le disent tous. Donc en fait, déjà... Leur visage les aidait. Mm. Ensuite, ils ont très vite compris qu'il fallait abandonner le yiddish, donc ils ne parlaient pas en yiddish, même entre eux. Ils ne parlaient que polonais, mm. Ils avaient tous des surnoms pour ne pas se trahir. Ils se donnent une identité. Et donc, en fait, Ziemian...
Il s'invente une histoire.
Bien sûr.
Il raconte qu'ils sont... Leurs parents sont à la campagne.
Ou alcooliques, ou les frappent, ou leur mère a des histoires avec des hommes. De toute façon, c'est la guerre. Une partie de Varsovie est en ruine, une partie non, est restée complètement préservée. Mais il y a beaucoup d'enfants qui traînent dans les rues. Des enfants polonais orphelins. Donc de toute façon, voir des enfants dans les rues, ce n'est pas une situation qui est étonnante ou surprenante. Le seul truc, c'est de ne pas faire descendre la culotte. C'est ça leur problème. C'est-à-dire que le visage, ça va, mais en bas, non. Et ils font en sorte de ne jamais se retrouver face à un policier. Par contre, ils vendent des cigarettes aux Allemands. Et bon, ils ont été.
Ils les contrefont d'ailleurs, même aussi. Enfin, ils vendent des cigarettes contrefaites.
Bien sûr, il y a des filières.
C'est des petites vengeances comme ça aussi.
Ah non, 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 c'est des réseaux.
C'est des réseaux de
vente de cigarettes.
Ils jouissent de pouvoir tromper les Allemands aussi en leur vendant des fausses cigarettes de marque.
Bien sûr. Et quand l'un d'entre eux va faire sauter un bunker rempli d'Allemands pendant l'insurrection. Il est très calme quand il en parle, mais Pavel Hochman est en même temps, on sent ce qui se passe en lui. Enfin, ils ont tout perdu. Hein. Certains d'entre eux avaient six frères et sœurs. Hein. Ils avaient des oncles, des tantes. Milchberg dit j'ai été le dernier juif.
Il y a un passage terrible quand c'est le petit Jacques aussi, Klajman, qui raconte quand son frère est arrêté. Là aussi, il ne peut pas raconter.
Son frère est vendu.
Oui, c'est ça, pour 3 kilos de sucre.
Son frère est vendu pour 3 kilos de sucre.
C'était un magnifique petit garçon blond, le seul blond de la famille. Et puis, il n'arrive pas à raconter la suite. Quoi. Il se cache pour pleurer. C'est aussi un passage très, très, très fort.
Ah non, mais il faut se représenter ce que ça peut être. C'est-à-dire, c'est ce ghetto où des gens tombent le long des trottoirs, où finalement la mort pour un enfant devient... une chose absolument banale. La seule idée, c'est de ne pas finir comme eux, de ne pas finir. Ils avaient une chanson, d'ailleurs. Ils appelaient la chanson de la Bona. Il ne fallait pas qu'ils aient la Bona. La Bona, c'était la carte d'alimentation. Donc, ils ont essayé de ne pas tomber dans la Bona. Parce que celui qui n'avait d'autres ressources que la petite carte d'alimentation, eh bien, c'était fini pour lui. Il n'y avait pas assez à manger. Mmh. Et ce qui me surprend à chaque fois, c'est que ces enfants n'ont jamais volé. C'est ça qui m'étonne. En fait, ils ont compris que s'ils se faisaient attraper, c'était la fin. Donc ils sont restés. C'est ça, une espèce de grande intégrité morale qui les a soutenus jusqu'à la fin.
Il y a eu quelques justes quand même, enfin, si on peut dire. Il y a cette femme cette femme médecin qui finalement accepte
de soigner
Milchberg, qui a été blessé en échappant à deux garçons polonais qu'il avait reconnu en fait, et qui finalement, pour l'amour du Christ, accepte de l'héberger. Il y a une autre femme aussi, une polonaise, qui accueille Klajman.
Locia, voilà. Oui, elle va accueillir Klajman pendant un an. Les autres vont dormir chez une vieille qui avait à peu près perdu l'esprit et qui se faisait payer pour pouvoir héberger les enfants. Donc, elle avait une espèce de plateforme en bois, où les enfants dormaient à même le sol. à 8, 9, 10. Et en fait, elle était simple d'esprit, elle y payait et y montait les escaliers. Alors, elle n'arrivait pas à compter combien ils étaient. Donc, ils ont dormi chez elle assez longtemps.
Mais voilà, c'était des espèces d'hôtels. Ils savaient où trouver un endroit pour, en payant. Puisque de toute façon, ils étaient dans la rue et qu'on ne les reconnaissait pas comme juifs dans la rue. Donc, ils pouvaient payer des endroits pour dormir. Mais ils ont tous été arrêtés. Ils ont tous eu des histoires rocambolesques que je n'ai pas pu mettre dans le film, malheureusement. Parce que sinon, je veux dire, ce n'était pas 60 minutes que ce film aurait duré. Chacun d'eux a été interviewé 4 heures. Donc, ils ont eu le temps de me raconter beaucoup de choses. C'est très précieux, hein, parce que... j'espère pouvoir les verser dans un musée tous ces témoignages et que ça serve, bien sûr, ça serve. Parce que c'est la vie des enfants, la vie des enfants dans la rue. Comment un soir, par exemple, c'est pas dans le film, un soir ils se saoulent et l'un d'entre eux se met à parler yiddish et Milchberg dit... De toute façon, tout l'immeuble était, c'était la fête dans tout l'immeuble, tout l'immeuble était en train de boire de l'alcool, tout l'immeuble faisait du bruit, mais le yiddish, c'était un bruit différent. Donc ils sautent tous sur lui, le bâillonne. Voilà, ils ont 14 ans, ils sautent tous sur lui. Et ils lui disent, tais-toi, tais-toi. Et l'autre se met à parler en yiddish tellement il est heureux.
Un soir, ils vont au musical aussi, vous racontez, parce qu'ils ont eu des... Ils revendent des billets un peu plus chers, ils les achètent, ils les revendent comme ça, ils font... Et puis, ils n'ont pas réussi ce jour-là à écouler leurs billets. Alors, ils se disent, bon, bah, on n'a qu'à y aller. Ils sont au premier rang. Faut raconter ça dans le
Oui, il y a ça. Et en fait, ils sont reconnus par le...
Il y a des petits plaisirs.
Ils sont reconnus par le chanteur, oui. Enfin, ils ont l'impression d'être reconnus parce que tout d'un coup, il leur a rendu hommage.
L'impression qu'ils s'adressent
à
eux.
Ils vont au cinéma. Parce que le cinéma, c'est 3 heures de répit. Dans le noir du cinéma, on peut dormir. On peut se reposer. Ils ont compris aussi une chose absolument extraordinaire, c'est que ils ont besoin de se laver. Ils veulent rester propres. Ils ont compris que la propreté, c'était la garantie de leur survie. Donc ils ont toujours, ils font très attention à eux. Donc soit en été ils vont dans la Vistule se laver, soit en hiver, eh bien ils allaient dans une salle de douche et parce qu'il y avait des bains publics et en fait ils faisaient en sorte, parce que sinon il fallait qu'on va les voir nus, 20 gosses, 18 gosses circoncis quoi. Donc en fait ils bloquaient une salle et ils avaient la possibilité comme ça tous ensemble de se laver tous ensemble, personne ne rentrait. Ils ont déployé des trésors d'imagination.
Des ressources incroyables. On va vite revenir avant de conclure sur cette rencontre avec Joseph Schliemann qui est très importante. C'est le premier homme à qui ils peuvent faire confiance, en fait, qui prend soin d'eux. Il apprend même à lire, à écrire au petit Volus. Et à partir de juillet 1944, ils vont s'engager dans la résistance. Ils brûlent de se rendre utile et surtout, finalement, de retrouver une fierté juive, de passer de victime à, quelque sorte, à héros, de faire quelque chose.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Schliemann était contre le fait qu'il se participe à l'insurrection. Il avait très peur pour eux.
D'accord.
Il avait vraiment très peur. Parce qu'au moment où... Varsovie, il faut comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que Varsovie se soulève avec l'armée à Craiova. Les rues de Varsovie sont... On érige des barricades. Les Allemands se battent contre les partisans. C'est vraiment des moments extrêmement dangereux. Il a eu peur de les perdre. Mais ils ne l'ont pas écouté, puisqu'ils ont tous voulu participer à l'insurrection. Donc en fait, et comment ils participent à l'insurrection, c'est qu'en en essayant de se cacher de la police allemande, ils tombent dans le nid même des chefs de la résistance.
Qui au début veulent pas d'eux, d'ailleurs.
Qui veulent pas d'eux, et qui leur disent, mais partez, vous êtes petits. Et finalement, comme ils veulent se rendre utiles, on leur confie des tâches et de plus en plus importantes. Parce qu'ils montrent du courage. Et en fait, ils vont se battre pendant les 2 mois que va durer l'insurrection. Ensuite, Hitler, qui veut faire un exemple de la ville de Varsovie, va la raser. Et certains d'entre eux vont descendre dans les stalags.
Merci Shoshana Bokobza. Je rappelle que votre film « Les petits héros du ghetto de Varsovie » sera projeté en avant-première le 17 avril au Mémorial de la Shoah, où se tiendra le 24 avril à 18h la commémoration de l'insurrection du ghetto de Varsovie sous l'égide du CRIF. Quant à nous, nous nous retrouvons dimanche prochain. C'était Mémoire Vive. Deux adresses pour nous retrouver, www.radio-rcj.info, www.mémoirevive au pluriel.net.